France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Il a dédié sa vie aux plantes et plus particulièrement aux arbres et aux forêts. Il dit qu'il faut changer de regard sur le vivant et que c'est vital pour l'humanité. Sa bande dessinée Le génie de la forêt nous y engage avec une grande intelligence. Le botaniste Francis Allais sera mon invité à partir de 13h. Mais tout de suite, on critique les sorties musicales du moment avec le nouvel album de la routarde de la pop et de la provoque Lady Gaga et le premier opus d'une nouvelle venue sur la scène de l'hyperpop sensible, la française OK Lou. Voilà le menu et voici les convives. Joseph Gone, directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro.
Bonjour.
Bonjour. Odile Deplas, chef du service musique de Télérama.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Il faut parfois revenir aux dates et tomber de haut. Ça fait 17 ans que Lady Gaga a sorti son premier album The Fame, le coup de vieux, merci. Depuis, la reine mère de la pop a écrasé la concurrence par son efficacité, mais aussi par sa vista, on va dire, son sens de la provoque, sa personnalité, ses prises de position. Chacun de ses albums s'est vendu à des millions d'exemplaires. 5 ans après la sortie de Chromatica, elle revient avec Mayhem, son 7e album, Mayhem, qu'on peut traduire par chaos. La semaine dernière, il lui a offert le meilleur démarrage de sa carrière avec plus de 47 millions de lectures en ligne. Lady Gaga avait promis de revenir à la pop de ses débuts. Elle a aussi annoncé que cet album contiendrait sa meilleure musique. Promesse tenue ou non, on va voir ça avec nos critiques. Mais d'abord, un avis rapide, voire lapidaire, Joseph Gone.
Je crois que, alors pour être de très très mauvaise foi, je crois qu'il y a deux genres d'albums, les albums de rupture et les albums de fête. Je crois que celui-ci est un album de fête avec lequel on a envie de rompre.
Waouh, bah là j'avais dit lapidaire, Odile Deplas.
Mon avis ?
Un avis rapide. Ouais,
ouais. On s'habitue à tout, dans mon cas, mais guère plus.
Alors Joseph, on va d'abord écouter le morceau que vous avez choisi, How bad do you want me ?
How bad do you want me ?
Tac. Do you want me? You're not the guy that she's, and you're afraid that she might leave. 'Cause if I get too close, she might scream, how bad do you want me? How bad do you want me? Lady Gaga. Alors Joseph Gunn, un album avec lequel on a envie de rompre, mais là ce qu'on entend, c'est...
Oui, c'est un disque, bon, très honnêtement, c'est un disque qui est très très inégal,
ouais.
Et cette chanson, elle est elle-même dans l'inégalité interne, c'est-à-dire qu'elle commence très très bien, et puis on sent qu'au bout d'un moment, Lady Gaga n'arrive pas à se retenir, et elle tombe dans ses travers, c'est-à-dire une sorte d'excès de personnalité, d'excès de présence, et elle chante, elle prend toute la place. C'est son rôle, elle est artiste, elle chante, etc. Pourquoi pas? Mais moi, je trouve que c'est un disque dans sa globalité, avec ses hauts et ses bas, est quand même un disque, comment dire, très peu concernant. Enfin, il touche très très peu. Ça a l'air d'être un disque qui tente d'être extrêmement direct, un disque de fête, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec des chansons ultra efficace, une forme de pop à laquelle elle tente de revenir en quelque sorte, c'est elle qui le dit. Mais en tout cas, on est dans une forme d'efficacité immédiate, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui tente de toucher une efficacité, mais qu'elle ne sent plus vraiment. On a l'impression de quelqu'un qui est un peu décalé par rapport à ce que c'est finalement que la fête, ou ce que c'est que les histoires qu'elle tente de raconter. Parce que dans le fond, ça tente de raconter aussi des histoires d'amour, des histoires d'une personne comme ça qui a l'air de naviguer dans des relations. Sauf que ces relations, elles sont très, ce qu'elle décrit sont des relations très unilatérales, très éphémères, très instantanées. Et on n'y croit pas tant que ça. Finalement, en tout cas, moi, je n'y crois pas beaucoup. J'ai eu cette impression qu'il n'y a pas du tout de double lecture, qui n'a pas beaucoup d'ironie. J'ai eu cette impression aussi que c'était un disque, c'est un disque un peu de cocaïne et un peu de whisky vodka. C'est-à-dire que c'est un disque qui tente de vous donner des espèces de rush immédiats. Mais une fois que ça se dissipe, qu'est-ce qui reste ?
La gueule de bois.
Une gueule de bois. Ouais, c'est un peu ça que je j'ai eu cette impression-là.
Odile de Plat.
Mais je suis à peu près du même avis, mais ça fait longtemps en fait que j'ai cet avis moi sur Lady Gaga. J'avoue que j'ai jamais trop compris la passion d'une partie de mes confrères et consoeurs. Hein, d'ailleurs, elle avait été présentée à ses débuts comme quelqu'un d'hyper provocateur, d'incroyable, et elle arrivait avec une chanson Just Dance qui ressemblait quand même à de l'EDM de base, et elle faisait un clip où elle se trémoussait comme n'importe quelle pop star en racontant qu'elle était ivre sur la piste de danse, qui est un peu la tarte à la crème du truc. Enfin voilà, bon, Charlie XCX fait aujourd'hui la même chose, mais de manière, je trouve, plus intéressante. En fait, je trouve qu'elle a quelque chose de terriblement américain, mais dans le sens aseptisé. C'est-à-dire qu'elle est dans une société où tout est tellement rangé, classé, propre, surveillé, carré, que le moindre petit écart semble une révolution, mais enfin, c'est rien, en fait, ce qu'elle nous dit. Donc, elle revient à un chaos qui est effectivement une espèce de somme de toutes les recettes de la pop ultra efficace qu'on connaît depuis 20 ans. Donc, elle revient à celle d'il y a 20 ans.
Où elle était déjà tournée vers les années 80, en plus
ouais. Donc, ça marche, moi, le premier morceau, mais même où celui-là, effectivement, ouais, que t'as choisi. Il y a plein de réminiscences, on les connaît. C'est le truc de la pop, de prendre des trucs qu'on connaît déjà puis de nous les resservir à la sauce d'aujourd'hui. Là, elle les ressort à la sauce d'aujourd'hui, mais une sauce qui a passé un peu de temps au frigo quand même. C'est la sensation que ça me donne, et je me sens beaucoup plus proche de toutes les imperfections de la pop britannique aujourd'hui que de cette surenchère américaine que je ne saisis plus, quoi. C'est un peu la même chose avec Taylor Swift aussi. C'est efficace, ça marche, mais je ne comprends pas ce qu'elles veulent me dire. Est-ce qu'elles veulent dire d'ailleurs quelque chose ? C'est quoi la phrase ? C'est « J'ai voulu célébrer la musique qui unit, provoque et guérit ». Ok. Et après, après je te laisse la parole, Joseph, mais c'est une succession de records, le communiqué qu'on a, qui accompagne. Il n'y a pas un mot sur la musique. Mm-hmm. Mais rien, elle n'a rien à dire, musicalement. Voilà.
Musicalement ?
Ben, alors, il faut, il faut prendre le titre de l'album... pas tant par sa traduction que par la révérence musicale. Mayhem, c'est un groupe de black metal, c'est un groupe ultra controversé.
Ouais.
Et même le logo, la façon d'écrire sur la pochette de Lady Gaga, ça fait référence à ça. Quand on connaît Mayhem, on voit ce à quoi elle tente de faire référence. C'était un groupe ultra controversé, très important dans l'histoire du metal, du black metal et même du rock en général. Et donc c'est comme si elle disait je suis dans cette filiation là, sauf qu'elle est absolument pas dans cette filiation. Elle ne fait rien qui dérange. Et ce qu'elle fait en fait, à mon sens, quand elle y arrive, et c'est plutôt en dehors des disques qu'elle y arrive, c'est de récupérer une forme de culture camp, c'est-à-dire dans cette surexagération. Et Lady Gaga aujourd'hui, reconnaissons que c'est d'abord une star du Met Gala qu'une star des albums. Elle est plutôt là. Elle a fait 19 Met Gala, je sais pas combien. Enfin, en tout cas, elle a eu 19 robes pour des Met Gala. J'ai lu ça avant de venir. Donc, elle est vraiment dans cette exagération là. Musicalement, elle est un peu à côté. Surtout, ce qui m'a troublé, c'est de voir qu'il y a un morceau qui s'appelle Abracadabra, c'est-à-dire que quand on tombe dans cette pauvreté d'écriture et de titrail, nommer quelque chose Abracadabra, c'est comme si on faisait appel à une forme de pensée et de pensée magique, enfin de magie et de pensée magique, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. En sous-main, ce qu'on sent quand même, c'est qu'elle tente d'aller vers une sorte d'esthétique James Bond, c'est-à-dire on sait qu'elle a cette envie-là de faire une chanson de James Bond qui est un peu la consécration de ces chanteurs et chanteuses pop en tout cas, et on sent qu'elle essaye de tendre vers quelque chose comme ça, parfois dans certaines voix, certaines positions de voix, certains arrangements, mais on sent aussi qu'elle est un peu à côté, c'est-à-dire que dans les James Bond il y a un peu plus de souffle, absolument de souffle, et de choses qui vous laisse penser qu'on n'est pas tout à fait là où on pense être. Et je crois qu'elle n'y est pas encore.
Et sur le son, le traitement du son de cet album, moi j'ai l'impression de quelque chose de très très brillant comme ça.
Là. Oui, oui.
Oui, mais ça l'a toujours été avec elle. Oui. De toute façon, comme tu disais, elle prend toute la place. Donc c'est toujours la surenchère de tout, de production, de chant. Ça part toujours comme un énorme morceau pop américain, des génériques de Disney, enfin des trucs, les Pink, vraiment cette espèce de pop gueularde, quoi. Voilà, on se moquait de Céline Dion qui hurle, mais alors Lady Gaga, elle ne fait que ça quand même tout au long de sa carrière. Et ce qui est aussi étrange, c'est quand elle... Parce qu'on la présente toujours comme une musicienne. Elle fait du piano, c'est une musicienne incroyable, elle a une personnalité, donc effectivement c'est quelqu'un de l'image, plus que de la musique. Paradoxalement, pour une musicienne qu'on nous présente toujours comme vraiment compétente dans ce domaine, mais je rappelle qu'André Rieu aussi était sûrement un bon violoniste, et après, il n'a pas fait des choses forcément intéressantes. Et là, quand elle sort un peu de cette dance pop ultra calibrée, elle va vers des choses quand même ultra ringardes, enfin ultra classiques. C'est pas ringarde, ça me dérange pas d'ailleurs, ni la ringardise ni le classicisme, mais elle fait des duos avec Tony Bennett, ou alors elle fait des morceaux de... Elle fait des bluettes un peu country. En fait, elle va quand même dans plein de directions, mais toujours très classique et assez conservatrice. Ce qui est étonnant pour une fille qu'on nous présente comme quelqu'un qui explose les codes et voudrait faire la révolution.
Alors moi je la trouve j'ai réécouté l'album avec Tony Bennett. Je la trouve plutôt mieux dans ce rôle-là parce qu'elle est assez tenue par les chansons. Elle est un tout petit peu contenue, même si c'est pas forcément la meilleure interprète de ce genre de chansons, parce qu'il y a eu avant elle des gens qui ont été incroyables. Elle tient pas forcément le standard, mais elle reste quand même contenue et il y a quelque chose que je trouve un tout petit peu meilleur, parce que dans le fond, ce qu'elle fait là dans ce disque-là, c'est ce que j'essaie de dire un peu tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté camp, elle est tout le temps en exagération. Il y a tout le temps une exagération et il n'y a rien pour la tenir. Il n'y a pas un morceau qui, comment dire, une chanson, je crois que c'est un peu comme ce qu'on dit sur la guerre. C'est-à-dire quand une guerre est déclenchée, elle continue toute seule. Un bon morceau de pop, c'est un morceau qui existe quasiment par lui-même. À vous de l'interpréter et de savoir rester dans son précaré en quelque sorte. Là, ces morceaux, ils ne la tiennent pas. Et ça, ça fait que, mais en fait, ça déborde tout le temps et c'est épuisant. En fait.
Mayhem de Lady Gaga disponible chez Interscope. C'est l'heure de votre coup de cœur, Joseph, et c'est le nouvel album d'un musicien flamand.
Oui, Milan W, je sais pas comment on dit exactement, il vit à Anvers, il a eu plusieurs vies, plusieurs groupes, plusieurs projets, plutôt électroniques, un peu abstraits, un peu dans plusieurs sens. Et ce disque-là, qui est sorti il y a déjà deux ou trois mois, à la fin de l'année dernière, qui s'est beaucoup fait remarquer à la fin de l'année dernière, c'est un disque de pop. Qui va beaucoup chercher du côté des années 80, avec une instrumentation comme ça, guitare, basse, batterie, assez simple, mais avec quand même beaucoup d'effets, des effets qui viennent directement des années 80, de la réverbération, des choses comme ça un peu atmosphériques. C'est très enveloppant, je parlais tout à l'heure du disque de rupture, ça c'est un vrai disque de rupture, parce que l'album ne raconte que ça, avec une atmosphère très touchante, une sensibilité assez particulière. En plus, ça sort sur un label belge, que je suis beaucoup en ce moment, qui s'appelle Stroom, et qui sort des disques assez électroniques ou expérimentaux ou de pop, qui sont vraiment assez formidables.
Est-ce qu'on en écoute un extrait?
On écoute un extrait.
Ouais.
On a un extrait.
Allez, on y va. Should I stay and wait? Why do I keep looking on? Are we finally going somewhere? People talking shit behind my back. I could be stealing. C'est une
forme de mélancolie, mais qui rend à la fin du disque assez joyeux, étrangement, et c'est un disque qui reste longtemps. Moi, ça fait vraiment plusieurs mois que je l'écoute, je l'ai vu en concert, et c'est vraiment très très prenant et très hypnotisant, et il paraît qu'il en sort un autre très très vite là dans les semaines ou mois qui viennent, et j'ai assez hâte d'écouter cette autre, sa nouvelle approche de la mélancolie, j'espère.
Milan W chez Stroom, Live Another Day. When I get
at home and sit in my little house. I try to feel something that I like.
On a commencé avec la patronne de la pop, on enchaîne avec une jeune pousse qui grandit vite et bien. Ok Lou sort son premier album. Née à Poitiers, formée au classique, puis passée de l'autre côté du channel, Ok Lou alias Marie-Lou Méniel est de cette génération de musiciens qui s'est d'abord imposée sur internet avant d'entrer dans le circuit comme on dit. En 2020, elle a sorti un premier EP très remarqué. Elle revient avec Shock Enough, cet album donc aux sonorités électro, ambiantes, à mi-chemin entre l'expérimental et l'ultra-pop. On commence avec un avis rapide, Odile Deplat.
Emporté par Ok Lou, ouais.
Emporté. Joseph.
Moi, je trouve ça d'une très grande délicatesse, une grande sensibilité et extrêmement détaillé. C'est un disque qui m'a complètement, qui me fascine et qui m'emporte beaucoup.
Alors, on va écouter tout de suite le morceau que vous avez choisi, Odile, c'est Obvious. Obvious de Ok Lou, Odile Deplat, une sonorité très étonnante, moi je trouve, elle a vraiment un univers très très fort.
Ben oui, moi j'ai appelé ça de la musique amniotique. Il y a vraiment quelque chose, on est dans une bulle, en suspension, et tout à coup, tout semble aller bien. Ce qui est assez agréable en ce moment, il faut le reconnaître. C'est assez rare. Et alors moi, ça m'a rappelé quand je l'ai découverte. Alors, elle est là depuis assez longtemps. En fait, elle a 31 ans. Elle a eu pas mal de projets avant. En fait, je remontais un peu en travaillant l'émission là sur des articles de 2006. Je parlais d'Internet Wave à l'époque. On n'appelait pas encore ça. Aujourd'hui, l'hyperpop, même si elle n'est pas vraiment dans l'hyperpop, mais enfin, elle est un peu à la croisée de tous ces trucs-là. Mais en fait, c'est une musique qui est née sur Internet. Donc, c'est comme une espèce d'esprit d'Internet, moi, que j'ai l'impression d'entendre quand j'écoute son disque. Et ça m'a aussi évoqué des disques que j'aimais bien dans les années 90. Voilà, c'est un des noms les plus connus de l'ambiance, mais c'est Boards of Canada. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de tranquillité absolue dans sa musique hein, qui vraiment m'emporte. Alors en plus là le morceau s'appelle Obvious et c'est marrant parce que ça joue, sa musique joue vraiment sur des choses un peu évidentes et des choses plus difficiles. Et je trouve que c'est toujours quand les musiques sont en tension comme ça entre ces deux pôles que ça donne les musiques les plus émouvantes.
Et alors, entre l'évidence et les choses plus difficiles, est-ce qu'on peut être un peu, tout petit peu plus précis par exemple?
Donc c'est dans les sonorités, dans les rythmiques, il va y avoir des toute petite différence, il y a des... En fait, c'est la façon dont on fait entrer un son, dont on le fait ressortir. J'ai aussi comparé ça à des patchworks, parce qu'il y a un côté très folklorique aussi dans sa musique, mais un patchwork qui serait fait avec de la fibre optique, c'est un patchwork très moderne. Et je sais qu'elle est très attirée par les musiques folkloriques. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai pas mal dansé dans des balles, apparemment, elle aussi. Non, mais c'est vrai que dans la techno, c'est toujours ce qui m'a plu. C'est ce côté lancinant, ce côté répétitif. Et donc, il y a ça. Et elle emporte et elle crée une espèce de rythmique dans lequel on se laisse doucement emporter, entraîner. C'est pas du tout rapide hein, comme musique, mais ça donne envie de danser tout en étant allongé. Donc... On est sur la rupture, réconciliation, cette opposition, pareil.
Joseph Ghosn.
Je suis assez d'accord avec tout ça et ça me fait penser, il y a quelques années, il y a même 10, 15 ou 20 ans, il y avait une théorie comme quoi la musique électronique, c'était une nouvelle forme de folklore. C'était un folklore moderne, contemporain, et ce qui veut dire que les machines, ou cette musique-là, elle sert à raconter, chanter des sentiments. Les sentiments de l'époque, du moment, de façon assez rapide, immédiate, populaire. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle fait un peu ça. C'est-à-dire avec ses machines, elle construit une musique dans laquelle les arrangements, les sons ont l'air de correspondre d'une façon extrêmement intime avec les sentiments qu'elle chante et qu'elle tente de porter et qu'elle tente de mettre en avant. Et ça, elle y arrive à la fois avec sa voix, avec laquelle elle joue, qui est assez assez calme, assez subtil, avec beaucoup de précision même dans les phrases, etc. Et qui fait vraiment écho avec ce qu'on entend dans la musique et dans la profondeur de chant de la musique. C'est-à-dire même si vous l'écoutez comme moi souvent avec des écouteurs un peu basiques ou pas très bons, vous entendez quand même des choses qui se déplacent, qui arrivent d'un peu loin et qui passent et qui reviennent, etc. Il y a vraiment une forme de mixage, de précision, de délicatesse dans ça, dans les détails, qui fait qu'on est à tout le temps pris par quelque chose et qu'on n'est plus uniquement dans une musique qui est faite pour être écoutée sur un ordinateur, c'est-à-dire avec une voix en avant, des basses et éventuellement une rythmique et un sens mélodique. Là, on a davantage, il y a beaucoup de profondeur et ensuite, il y a surtout, dans mon sens, quelque chose qui me fascine, c'est une sorte de facilité mélodique et harmonique qui vous happe à chaque fois et elle arrive à passer de morceaux qui sont effectivement très ambiantes, très électroniques, un peu années 90, etc., à quelque chose qui immédiatement vous capte l'oreille. Et ça c'est vraiment fascinant, notamment par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure de Lady Gaga, c'est-à-dire que là on est vraiment face à quelqu'un qui a une écriture et une écriture plus qu'efficace, une écriture qui vous touche immédiatement.
Odile Deplat.
Oui, ben Lady Gaga, c'est l'autoroute, ça marche, c'est pratique, c'est efficace. Voilà, c'est la cocaïne, c'est le whisky coca pour réussir sa soirée. Et là, ben, c'est autre chose. Elle nous emmène dans la forêt, dans des chemins détournés. Elle nous fait prendre la petite route qu'on connaissait pas. Donc c'est vraiment cette sensation qu'on a quand on l'écoute. Il y a pas toujours, c'est pas toujours réussi, enfin ça n'a pas toujours été réussi, c'est vrai, sur Galore,
c'était
son premier EP, il y avait des choses que je trouvais intéressantes, mais il y avait pas cette aisance mélodique qui est réussie vraiment cette fois-ci, donc c'est là où elle écrit tout, elle compose tout, et elle vient de ce milieu donc qu'on appelle, c'est une espèce d'étiquette un peu générale de l'hyper pop, mais qui raconte en fait cette collision sur Internet de tellement d'esthétiques différentes, de trucs très grand public, de trucs très expérimentaux. Et elle est de cette génération qui a grandi avec YouTube en découvrant Aphex Twin, voilà, pour faire l'expérimental un peu le plus connu, tout en écoutant René Lataupe ou en écoutant Lady Gaga et donc ça mélange tout ça, mais elle en fait quelque chose de joli. Alors parfois il va peut-être y avoir une petite naïveté ou une petite niaiserie dans les paroles qui me dit que ça peut encore aller plus loin, mais j'aime beaucoup ce truc d'absence de hiérarchie pour en faire autre chose, pas pour tout mettre au même niveau, mais pour créer quelque chose de nouveau.
Qu'est-ce qu'elle nous raconte?
Ce qui est intéressant dans un disque, c'est que vous savez, c'est pas forcément les intentions de l'auteur, mais c'est ce qui vous touche.
Ouais.
Moi, ce qui me touche, c'est que j'ai l'impression qu'elle me raconte à la fois sa vie amoureuse et aussi des choses qui sont totalement incompréhensibles. Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est le mystère qu'il y a dans ce disque, c'est-à-dire je l'ai écouté, réécouté, etc. Et il y a plein de choses que je comprends pas, et j'adore ça. J'adore quand un disque met un peu hermétique. Et il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que effectivement on peut aller chercher tout ce qui le compose, les influences, on peut voir du dubstep, de machin, etc. On peut trouver plein de choses dans les influences, mais elles sont ultra digérées, ultra reprises, compactées, et elle en fait quelque chose qui est une matière vraiment mystérieuse en fait. Et moi, c'est en prenant des notes, en essayant de dire tiens, mais qu'est-ce que c'est ce disque, etc. Je me suis à chaque fois retrouvé face pas à un mur, mais peut-être que l'image de la forêt est assez belle et efficace, efficiente en tout cas. On est face à une forêt, on est face à quelque chose qui est assez mystérieux et on y circule en fait. Et ça, je trouve que c'est un très grand avantage de ce disque qui est un vrai album, c'est-à-dire qu'il s'écoute du début à la fin et on peut y circuler. Il y a effectivement des morceaux qui sont moins bons que les autres, mais ça, je pense que c'est le propre d'un bon album, c'est-à-dire que il y a des morceaux qui créent des dénivelés. Moi, par exemple, j'aime moins les morceaux qui sont chantés à deux, etc. Enfin, il y a des petites choses qui sont un peu moins fortes. Mais du coup, ça ne vous laisse pas sur une tension permanente, mais vous pouvez redescendre, reprendre. Et dans l'ensemble, ben, en fait, je sais pas de quoi ça me parle, mais j'adore ça.
Odile Deplat.
Oui, en fait, c'est parce que je l'ai vu en concert là récemment. Et déjà,
ça donne quoi en concert, oui?
Alors, ben, ça donne quelque chose de très chouette. Alors, avec des petits moments, des petits ventres mous parfois. Mais en fait, j'ai été très étonnée par la scénographie
ultra simple, c'est juste des projections, mais mystérieuses. Donc c'est aussi pour ça que j'ai cette idée de forêt qui m'est venue, parce que je pense qu'elle me l'a donnée lors de ce concert. Elle était assise sur une balançoire. Alors en plus, elle était enceinte de 6 mois, donc elle peut quasiment pas bouger. Enfin, si, elle peut bouger, mais disons qu'elle limitait ses mouvements. Et elle naviguait d'un synthétiseur à une balançoire. Elle redescendait sur scène. Elle avait ses projections un peu fantomatiques, en noir et blanc, sur un drap. Donc extrêmement simple, mais on était dans une scène de théâtre. Elle avait créé un espèce de monde merveilleux, et donc voilà, quand je parlais de trucs un peu plus niais ou faciles, c'était des références à une petite fille m'a dit quelque chose de très joli. J'étais tellement touchée par la phrase de cette petite fille. Bon, ça, moi, ça me touche moins, mais c'est, ça va avec cet univers d'enfance qu'on ne veut pas quitter, de forêt mystérieuse qui terrifie un peu aussi quand on est enfant. Ça semblait assez cohérent.
Et son passage, elle est née à Poitiers, mais c'est en passant par la Grande-Bretagne qu'elle a vraiment décollé, on va dire.
Ouais, en fait, on sent quand même dans le disque que c'est pas un disque. C'est pas un disque américain, c'est pas un disque français, c'est vraiment un disque anglais. Ouais. On sent, même quand on écoute un peu les sonorités, on parlait tout à l'heure de Boards of Canada, moi j'entends pas mal de dubstep, enfin des gens qui viennent vraiment de la culture club anglaise, des choses qui viennent même de la rave, ou en tout cas des choses post-rave, c'est-à-dire des sortes de réminiscences, de rêves, du fait qu'on a dansé, qu'on en est sorti, etc., etc. On est vraiment en Angleterre. D'ailleurs, elle chante en anglais, et à aucun moment on se demande ce qu'elle est, ni où elle est. On est vraiment dans un album qui est de là-bas, qui est de Londres. Moi, j'ai vraiment l'impression d'entendre un disque qui pourrait être la continuité d'un disque comme celui il y a 20 ans de quelqu'un comme Burial, de Massive Attack éventuellement.
Ouais, oui.
On est vraiment dans cette continuité là, dans cette sensibilité là, dans cette forme de calme, mais qui est toujours très 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 tendue. Donc oui, pour moi elle est dans cette continuité là. De Tricky aussi, par exemple, on est peut-être dans une nouvelle manifestation de cette musique anglaise qui était déjà infusée par beaucoup de choses, par du hip-hop, par plein de d'autres genres, et là on est peut-être dans une nouvelle étape de ça, et je pense que elle est bien placée, étant française, vivant là-bas, pour mixer toutes ces sonorités et ces genres-là.
Odile Deplat, un dernier mot ?
Oui, mais c'est marrant parce que tu cites des artistes qui sont finalement associés à la soul, et il y a de l'âme,
ouais,
en fait,
y a beaucoup
dans
d'âme
ce
dans le
disque.
Ouais.
Et c'est ça, et c'est une âme électronique. Voilà, effectivement, qu'on s'approprie, on n'est pas sûr de ce qu'elle nous raconte, mais je l'avais vue il y a longtemps aussi, je savais pas que c'était elle, en fait, j'ai compris que c'était elle que j'avais vue, qui faisait une musique pour un jeu vidéo.
Donc, ah oui, c'est vrai qu'elle a fait de la
musique. Il y a cette narration aussi.
Bien sûr, il y a tout ce côté jeu vidéo, quand on l'écoute, on a aussi l'impression d'être avec elle sur un canapé, et qu'il y a peut-être une télé allumée, il y a quelque chose qui se déroule. Et en ce sens-là, c'est aussi presque un commentaire sur nous, notre façon de nous positionner dans un espace intime.
Et donc, c'était Shock Enough de Okelou, qui sera en concert notamment le 5 avril à Nantes, le 20 novembre à Lille. Toutes les dates seront évidemment sur la page des Midis de Culture, Odile Deplat, Joseph Cohn. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis. Toutes les références sont sur les pages, je l'ai déjà dit, ça. Maintenant, vu qu'ils nous écoutaient, c'est à vous de vous faire une idée.